La résolution du problème chypriote se trouve aux États-Unis et nulle part ailleurs. Pourquoi ? Bien parce que tout dépend du bon vouloir des États-Unis à pousser ou non la Turquie à régler ce problème.
Jusqu'à présent, ça n'a pas été le cas, semble-t-il. Est-ce qu'aujourd'hui, selon vous, le contexte est plus favorable ?
La fin de la guerre froide, d'une part. Disons l'évolution de l'Iran, même si cette évolution est tout à fait relative. Et, je dirais, la façon un peu brutale dont le problème irakien a été réglé par les États-Unis fait que maintenant Washington a nettement moins besoin de l'armée turque, qui est la plus puissante armée dans cette région du monde. Et donc, on peut maintenant raisonnablement penser qu'on peut envisager le règlement chypriote. Et seuls les Américains peuvent forcer l'armée à évoluer.
Mais les casques bleus sont déployés depuis 1974, le long de la ligne de démarcation. On a vu que Kofi Annan a assuré la médiation dans les pourparlers à New York. Quel rôle joue l'ONU en fait ?
Alors, le rôle de l'ONU aujourd'hui, eh bien, M. Kofi Annan propose de transformer Chypre en une confédération. Alors ça, c'est aussi le gros problème, parce que la plupart des gens veulent une fédération. Et alors, c'est encore plus vrai pour ceux qui sont turcophones. Les turcophones veulent deux États, et donc une fédération de deux États. Et quand les Grecs disent « nous soutenons la confédération », c'est parce que, comme ils sont plus nombreux, plus puissants, etc., ben, ça veut dire « nous dirigerons le pays et nous continuerons à rester les maîtres ». Donc, si vous voulez, cette affaire est une affaire très difficile. Pourquoi ? Parce que les hommes politiques, qui aujourd'hui ne rêvent que d'une chose, d'en sortir, d'entrer dans l'Europe, de bénéficier des subventions européennes, sont les mêmes qui, pendant 20 ans, 30 ans, ont suscité, excité les haines ethniques, religieuses et linguistiques entre les deux parties. Moi, j'ai vu des enfants de 14-15 ans cracher sur la télévision parce qu'ils voyaient un Turc. Comment voulez-vous que l'on arrive aujourd'hui à leur dire « mais non, pas du tout, c'est ton frère ».
Et pourtant, au Nord, la population turcophone souhaite entrer dans l'Union européenne.
Je crois qu'il faut insister sur le fait qu'il y a deux réalités. Il y a une réalité des hommes politiques et vous avez une réalité du terrain. Les jeunes turcs, enfin disons les jeunes de l'autre côté, mais ils en crèvent d'être enfermés dans un enclos avec des grillages, etc. Ils en crèvent, ces jeunes. Bon, je veux dire, un pays ne se fait pas avec des vieux, il ne se fait pas avec des gens qui ont une histoire, il se fait avec des gens qui ont un avenir. Et les jeunes de l'autre côté, je dirais, ils sont désespérés. Donc, il est bien certain qu'il y a une soif de la population de la partie nord d'accéder à un niveau de vie qui est celui de la partie sud. Donc, de toute façon, on va évoluer vers une entente et sans doute vers une construction, parce que tout le monde y trouvera son intérêt matériel.
Vous espérez une réunification, au moins à long terme ?
Quand vous aimez Chypre, vous ne pouvez rêver que de ça. C'est-à-dire, Chypre n'appartient pas à une communauté. Jamais un pays n'a été autant un creuset de toutes les influences à la fois de l'Orient et de l'Occident, de l'Égypte, de la Perse, de la Grèce. Et ça donne un pays d'une richesse absolument étonnante. Mais il faut préserver un endroit où, justement, tout s'est rencontré et tout s'est construit. C'est un creuset. On trouve forcément son identité plus facilement en se différenciant du voisin. Mais je crois que l'identité qui consiste justement à ressembler au voisin ou à se rapprocher du voisin est beaucoup plus forte. Et c'est ça, je pense, la construction de l'Europe.